Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de tous mes amis mauritaniens et sahéliens.
La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. C'est l'une des crises de déplacés les plus rapides au monde. Et pour cause, chaque jour, des milliers de personnes sont obligées de fuir leur maison à cause de l'insécurité au quotidien. Le Sahel vit aujourd'hui l'une des pires crises humanitaires de son histoire, avec près de 2 millions de déplacés internes et quelques 850 000 réfugiés. Une crise dont l'épicentre se trouve au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Plusieurs facteurs expliquent cette crise, comme les violences armées entre groupes djihadistes et forces gouvernementales, appuyées par des forces internationales, le changement climatique qui bouleverse des écosystèmes et des modes de vie fragiles par nature, et la récente pandémie de Covid-19. Tous les indicateurs sont au rouge, au point où les ONG ont lancé un appel au secours à la communauté internationale. Les moyens manquent pour répondre aux immenses besoins des populations touchées par la crise. Pour en parler, nous aurons en première partie Xavier Créache, coordinateur Sahel de l'UNHCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et en deuxième partie, nous aurons l'immense honneur d'accueillir une légende de la musique africaine, légende de la musique tout court, l'artiste sénégalais Bam Mal, auteur d'une tribune sur la situation d'urgence au Sahel, à lire sur le site du quotidien Le Monde. Bienvenue dans Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel.
Bonjour Xavier Créache.
Bonjour et bonjour à tous vos éditeurs.
Dans l'introduction que j'ai donnée, quelques chiffres, mais pour que les auditeurs comprennent bien l'ampleur de la crise, pouvez-vous expliquer la situation alarmante actuelle du Sahel, peut-être avec d'autres chiffres ou exemples ?
Bien sûr, et peut-être des comparaisons. Vous avez parlé de presque 2 millions de personnes déplacées internes au Sahel. On en est à peu près à 1,6 million. Mais prenons l'exemple du Burkina Faso, peut-être, qui a plus d'un million de déplacés internes aujourd'hui. Je voudrais faire une comparaison avec l'Europe. Vous vous rappelez, en 2015, il y a eu une crise majeure qui a été appelée une crise de réfugiés et de migrants en Europe, qui a changé le discours politique en Europe, qui a créé une réponse continentale. À l'époque, c'était 1 million de personnes qui sont arrivées en Europe entre 2015 et 2016. 1 million de personnes qui allaient dans 28 pays parmi les plus riches du monde. Imaginez-vous, rappelez-vous l'impact que ça a eu sur l'Europe, sur les discours politiques, médiatiques, sur la réponse étatique. 1 million de personnes pour 28 pays parmi les plus riches du monde. Aujourd'hui, le Burkina Faso tout seul doit faire appel à 1 million, doit faire face à 1 million de personnes déplacées internes. Un des pays avec un niveau de développement, mais aussi des questions structurelles, économiques, assez grave à résoudre, c'est énorme pour un pays comme le Burkina Faso d'avoir 1 million de déplacés internes. Alors il y a une grande tradition de solidarité, il y a une grande tradition d'accueil des réfugiés, des personnes déplacées en Afrique de l'Ouest, mais quand même, pour des pays comme les pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, c'est un défi énorme.
Aujourd'hui, il s'agit de la crise de déplacés la plus rapide du monde. Au-delà des conséquences liées à la grave crise sécuritaire que connaît le Sahel depuis une dizaine d'années, pensez-vous que la communauté internationale a au départ, je ne dirais pas prise à la légère, mais sous-estimé cette crise ?
Alors, d'abord, la crise, les conflits qui agitent le Sahel aujourd'hui, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas un seul, sont la conséquence de quelque chose, ce n'est pas la cause. Le conflit, il intervient avec des problèmes qui sont très anciens. Il y a un problème de pauvreté au Sahel, un problème de faiblesse des structures étatiques, de faibles opportunités professionnelles ou économiques, de faible accès aux services de base. Et puis, il y a un réchauffement climatique très fort. Le Sahel est la région du monde qui est le plus affectée par le réchauffement climatique. Il y a des experts qui disent que déjà 80% des terres cultivables au Sahel sont affectées. Donc ce manque de services pour les populations, le réchauffement climatique, la pauvreté, les problèmes de développement sont des causes sous-jacentes au conflit. Le conflit est la conséquence de tous ces éléments. Est-ce que la communauté internationale n'a pas pris au sérieux cette crise ? Je crois que le problème de la communauté internationale est une focalisation presque exclusive sur la dimension militaire et sur la réponse sécuritaire. Les besoins des populations civiles ne sont pas assez pris en compte par la communauté internationale. Dire qu'il y a besoin d'une réponse militaire, c'est très probable, ce n'est pas à des acteurs humanitaires de le dire, mais dire que la solution est militaire, là, c'est beaucoup plus contestable. Et c'est un peu ce qui nous préoccupe, c'est de voir autant de focalisation, autant d'argent dépensé en matière sécuritaire et militaire, alors qu'à notre sens, c'est les populations civiles qui devraient être au centre de la réponse, qui devraient être les bénéficiaires de cette aide. Et il n'y aura pas de solution si on ne répond pas aux besoins de la population civile.
Donc si j'ai bien compris, vous estimez qu'il y a un décalage entre les investissements mis sur le militaire comparé aux investissements mis pour le développement et pour l'aide des populations.
Absolument. Alors c'est très difficile de vous donner des chiffres là-dessus, puisque les dépenses militaires sont difficiles à calculer. En plus, on parle des dépenses militaires des gouvernements du Sahel, on parle des dépenses militaires des acteurs internationaux, des forces internationales. Donc ça ne serait pas possible de vous dire, en tout cas nous ne pouvons pas vous dire combien coûte la réponse militaire et combien coûte la réponse sécuritaire. Ce qui est sûr, c'est que les besoins humanitaires ne sont pas satisfaits et ne sont pas financés. Pour que vous sachiez, tous les acteurs humanitaires ont fait un appel tous les ans. En 2020, cet appel financier a reçu que 38% des fonds. Et c'est les Nations Unies, les ONG, les acteurs de la société civile. Donc, si vous voulez, beaucoup d'argent pour la réponse militaire. Je ne sais pas si c'est trop. C'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, pas assez. Or, il n'y aura de solution au Sahel que si l'ensemble des besoins est satisfait. Si les causes, on dit les root causes en anglais, les causes racines, je ne suis pas sûr du mot, les causes profondes de la crise au Sahel ne sont pas adressées, l'intervention militaire ne permettra pas de trouver une solution à la crise.
Je rappelle que 84 gouvernements et donateurs institutionnels ont promis mardi 20 octobre plus de 1,7 milliard de dollars, environ 1,4 milliard d'euros, pour accroître l'aide humanitaire au Sahel central et éviter que la région ne plonge dans l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, a indiqué l'ONU. Xavier Créache, est-ce suffisant ?
C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est un succès incroyable et on peut uniquement se féliciter que la communauté internationale soit prête à donner 1,7 milliard au Sahel. Il va quand même falloir regarder les détails parce que très souvent, ces annonces sont faites et en réalité, il ne s'agit pas toujours de l'argent nouveau. Parfois, il s'agit déjà d'argent investi et parfois, quand les pays font ces discours, ils se réfèrent à l'argent qui a déjà été donné dans le passé ou qui a déjà été promis. Donc il va bien falloir avoir le détail de ce 1,7 milliard pour savoir qu'est-ce qui est de l'argent nouveau. Maintenant, ce qui est plus important pour moi ou pour nous, ce n'est pas la quantité d'argent, c'est comment cet argent va être utilisé. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, au Sahel, on a une réponse fragmentée. Certains acteurs vont vous dire c'est une crise de sécurité. D'autres vont vous dire c'est une crise climatique. D'autres vont vous dire c'est une crise de développement. D'autres vont vous dire c'est une crise alimentaire. Chacun apporte sa solution à travers son mandat, à travers sa perception, à travers l'objet, qui intéresse son organisation. Ce qui manque au Sahel, c'est une approche globale. Donc ce que j'espère, c'est que ce 1,7 milliard fera l'objet d'un plan de réponse coordonné. Notre haut-commissaire a fait un parallèle avec le plan Marshall qu'avait connu l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction. Là, on n'est pas dans la reconstruction, on est plutôt dans le développement, dans le soutien aux populations civiles. Mais ce qui importe, c'est que cet argent soit vraiment utilisé de manière coordonnée, soit investi dans un plan de réponse global qui intègre l'ensemble des défis de la population civile et ne soit pas dépensé de manière, non coordonnée, avec des approches fragmentées. C'est vraiment une compréhension globale de l'ensemble des problèmes qu'on a mentionnés qui est nécessaire.
Justement, est-ce que vous êtes consulté dans les prises de décision sur comment est dépensé l'argent ? Comment sera dépensé cet argent ?
Alors, nous, on est consulté sur l'argent qui nous revient au HCR. Pour que vous ayez une idée, au Sahel, en 2020, On a déjà dépensé 133 millions de dollars pour ce qui est du HCR. Notre budget pour l'année est de 185 millions de dollars. Donc pour cet argent, oui. Mais alors, ce qui est important, ce n'est pas seulement que nous soyons consultés. Ce qui est important, c'est que les populations du Sahel soient consultées. Ce qui est important, c'est qu'elles soient impliquées dans la réponse, qu'elles informent la réponse, qu'elles puissent définir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs priorités. Les lectures depuis Paris, les lectures depuis Dakar, ou même les lectures depuis les capitales, ne sont pas toujours des lectures adaptées. Les régions du Sahel peuvent souffrir de problèmes différents selon les pays. Je veux dire, la région du Sahel au Burkina Faso, je crois que vous êtes basé à Ouagadougou, n'a pas les mêmes défis que la région du Centre-Nord. Donc je crois que c'est vraiment important. Ce n'est pas seulement que les organisations internationales soient consultées. Ce qui est important, c'est que, c'est que les populations bénéficiaires soient consultées, soient impliquées dans la réponse et puissent en bénéficier directement.
Et justement, quels sont les besoins prioritaires des populations du Sahel ?
Alors ça, il faudrait leur demander à elles, mais de ce qu'elles m'ont dit dans mes différentes missions de Sahel, je crois que d'abord, il y a un grand besoin d'hébergement, d'abri, de maison. On parle de 1,5 million de personnes déplacées. On parle de plus de 2 millions si on inclut les réfugiés, près de 3 millions si on inclut les rapatriés. Il y a des rapatriés au Mali. Beaucoup de villages ont été détruits. Beaucoup de villages ont été brûlés lors de différentes attaques. Et puis, beaucoup de zones vers lesquelles ces personnes se déplacent n'ont pas des capacités d'hébergement. Donc d'abord, il y a un énorme besoin en abri. Deuxième chose, il y a un gros besoin en eau potable, en hygiène, assainissement. Quand on voit des villes comme Kaya au Burkina Faso, dont la population a presque doublé depuis l'arrivée des passés internes, on se doute bien que c'est tout le réseau d'eau potable qui a un problème de capacité. Troisième chose, il y a un problème d'éducation. Hein, plus de 3600 écoles détruites au Sahel depuis 2019 à cause du conflit. L'éducation est une grande priorité. Quatrième, je dirais, la situation des femmes et des jeunes filles. Les femmes et les filles au Sahel souffrent de manière disproportionnée du conflit et je crois qu'elles doivent avoir un rôle plus central dans la réponse. Elles doivent faire l'objet de beaucoup plus d'attention, qu'on regarde le niveau de violence sexuelle ou de violence basée sur le genre, qu'on regarde le taux d'enrôlement des filles à l'école. Il y a vraiment elles sont disproportionnellement affectées. Je rajouterais enfin que tout ce qui a trait à la subsistance, au travail, à l'accès à des activités génératrices de revenus, parce que là, non seulement, on l'a dit, historiquement, le Sahel fait face à une situation de pauvreté et de manque de développement, mais en plus, le conflit a exacerbé cette situation, et enfin, sur le conflit, on peut rajouter maintenant la pandémie. Vous savez, le Covid a eu un impact médical, et tant mieux, limité en Afrique pour le moment, si on compare avec d'autres régions. Par contre, l'impact sur l'économie et sur les moyens de subsistance des populations est énorme. Donc, si vous rajoutez les causes profondes de la crise au Sahel, plus le conflit, plus le Covid, les besoins en termes d'opportunités d'emploi, de subvenir à leurs besoins par les populations sont énormes. Voilà les cinq priorités. Je vous ai dit abri, eau potable et hygiène. Je vous ai dit également éducation, toute la question du genre et des violences sexuelles contre les femmes. Et je vais rajouter substances de vie. J'ai pas mentionné la partie alimentaire et nutritionnelle parce que c'est évidemment directement intégré dans tous les autres et notamment sur la question de subvenir à ses propres besoins.
Depuis le début de l'émission, vous prenez beaucoup l'exemple du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pays le plus touché du Sahel actuellement ?
Je dirais que oui, le Burkina Faso est incontestablement le pays le plus touché en termes de déplacés internes. Le Burkina Faso a 1,50 million déplacés internes. Juste pour vous donner une comparaison, quand on parle du Mali, on parle d'environ 280 000 personnes et quand on parle du Niger, 266 000 personnes. Donc, presque quatre fois plus au Burkina Faso. Maintenant, le Niger est impacté non seulement par la situation du Diptako Gourma, mais aussi à Difa, dans sa frontière avec le Nigeria. Le Mali a aussi payé un prix très fort dans le conflit armé. Il a commencé dans sa version moderne là-bas. Donc, c'est très difficile d'isoler un pays. Mais en tout cas, en termes de déplacement forcé des populations, le Burkina Faso est aujourd'hui le pays le plus touché, effectivement.
Dernière question. On parle beaucoup de gouvernement, d'institutions, mais comment le citoyen du quotidien, comment la société civile peut aider ?
Alors, d'abord la population et la société civile, je crois que j'y ai fait référence dans l'introduction, mais je ne voudrais pas conclure sans ça. Elle aide déjà énormément. Si vous allez dans les différentes zones de déplacés internes, vous allez vous rendre compte que essentiellement les déplacés internes vivent dans des familles d'accueil. Donc c'est absolument considérable la solidarité, la générosité dont fait preuve, je ne sais pas si on dit les Sahéliens et les Sahéliennes, mais la population fait preuve d'une solidarité extraordinaire, d'une générosité. Ils partagent leur maison, ils partagent leur cour, ils partagent parfois leur terre agricole, leurs enfants partagent les classes. Donc, c'est exceptionnel. La société civile, c'est à nous de l'aider dans le sens où c'est à nous de l'impliquer. Il y a énormément d'organisations communautaires extrêmement fortes. Et vous savez, pour les acteurs internationaux, parfois, on arrive de l'étranger avec nos grosses chaussures et on va trop vite sans prendre assez en compte tout ce qui existe au niveau national. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'on doit s'appuyer plus sur la société civile, on doit se rendre compte du travail qui est déjà fait et on doit l'appuyer parce que la société civile, elle restera. La société civile, elle perdurera. Les réponses d'urgence internationales, c'est toujours des réponses qui ont un temps de vie limité et le plus on se basera sur la société civile, le plus on renforcera la société civile et le plus la réponse sera durable.
Xavier Créache, merci à vous.
Eh bien, merci à vous de nous donner cette opportunité.
Je rappelle que vous êtes coordinateur Sahel de l'UNHCR au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pause musique, on revient juste après dans la deuxième partie d'Écho du Sahel. C'était le titre Olel de la légende de la musique africaine que nous accueillons maintenant. J'ai nommé le chanteur sénégalais Bab Mal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, le plaisir est partagé.
Bab Mal, pourquoi vous avez décidé d'écrire une tribune sur la crise humanitaire du Sahel ? Vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait ?
Bon, moi, je suis enfant du Sahel et je sais que cette partie de l'Afrique doit être une opportunité pour quand même réussir les objectifs que nous nous sommes fixés, la paix dans le monde entier, mais surtout sur le continent africain et l'épanouissement des peuples parce que le terrain y est propice à cause de cette diversité de cultures, de brassage ethnique et qui devrait être une opportunité. Au contraire, donc on voit l'opposé de tout cela. Et je pense que avec ma voix, je dois encore essayer d'appeler les gens à se pencher sur la question des populations du Sahel. La question qui interpelle tout le monde, c'est la sécurité, c'est éradiquer la faim et la pauvreté, installer un très bon plan d'éducation pour les enfants du Sahel, accès à la santé, parce que cette région est une plaque vraiment tournante du continent africain. On ne peut pas la laisser comme ça entre les mains des personnes qui exercent des choses qui ne vont pas dans l'intérêt des populations.
Depuis plusieurs années, des millions de personnes ont dû fuir leurs maisons et leurs racines, des femmes et des jeunes filles violées, des écoles attaquées et fermées. Bamal, vous-même sahélien, enfant du Fouta, quand vous voyez ça, quel est votre sentiment?
Bon, je suis vraiment peiné et j'ai mal au cœur de voir que, au lieu d'aider cette population, surtout sur le continent africain, cette population qui doit quand même donner un très bon exemple au reste du monde, parce que partout où nous allons pour exercer notre art, notre musique, jeu de la musique, on nous dit que l'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc l'Afrique, c'est un continent sur lequel le monde entier compte pour quand même arriver à un autre niveau d'épanouissement. Si sur ce continent, on voit par exemple dans la bande du Sahel toutes ces extractions, mais ça fait mal au cœur. D'autant plus que nous savons que c'est une partie de l'Afrique qui a été propice à beaucoup d'échanges, d'échanges sur le plan culturel, comme je l'ai dit tantôt, d'échanges sur le plan, par exemple, entre le nord et le sud, pour que l'Afrique subsaharienne puisse avoir accès à tout ce qui vient du nord. Je pense que les gens passent par le Sahel. Et donc, mais pour que tout cela puisse arriver à bon port, je pense qu'il faut d'abord s'occuper des populations. Il faut vraiment essayer de tout faire pour que cette Afrique qui maintenant dit que nous devons jouer ce rôle de leadership puisse quand même jouer ce rôle à bon escient. Donc, je ne pense pas que ce soit exactement correct que les gens ferment les yeux.
Alors qu'en général, on insiste sur l'insécurité comme l'une des causes, à juste titre, de la crise que traverse le Sahel, dans votre tribune, vous évoquez également le changement climatique.
C'est beaucoup de causes qui viennent vraiment s'agiter les unes sur les autres, sur une population. C'est même dire que cette population est très brave. Par exemple, aller de des changements climatiques jusqu'à l'impact du coronavirus par les gens qui courent. Et avec l'insécurité de surcroît en plus, mais ces populations ne savent même plus où donner de la tête. Je pense que c'est même inimaginable qu'on ne puisse pas essayer de redonner de la dignité à ces populations qui n'ont rien fait pour subir toutes ces exactions. Je pense que les changements climatiques, nous ne sommes pas très bien trop responsables de tout ce qui se passe dans le monde et parfois même des informations qui peuvent aider à faire face à ces changements climatiques n'arrivent pas jusqu'à ces populations qui sont éloignées des grands centres, des grandes villes.
Dans votre tribune, vous écrivez « Je veux que ma voix puisse attirer l'attention sur la tragédie qui s'y déroule, que le monde la voit, la regarde ». C'est important que des personnalités publiques comme vous alertent sur cette grave crise. J'imagine que vous encouragez vos collègues d'en faire de même.
Je suis sûr que beaucoup de mes collègues aimeraient vraiment élever la voix. Si jamais on a la possibilité d'élever la voix et d'être entendu en dehors même de notre continent, je pense qu'il faut le faire. Parce que il y a tellement de choses qui se passent sur ce continent et on a l'impression que le monde entier semble être vraiment sourd à l'appel de ces populations. Et ce n'est pas normal. Pendant que les gens s'intéressent aux ressources, par exemple, de ce continent, s'intéressent, par exemple, aux ressources humaines comme aux ressources naturelles de ce continent, et que les gens vont vraiment rester sourds par rapport à toutes ces exactions qui se passent sur ce continent, ce n'est pas du tout normal. Et je pense que tout un chacun, pas seulement les artistes, tout un chacun doit élever la voix pour essayer d'attirer l'attention des gens. Les gens élèvent la voix un peu partout pour d'autres causes dans le monde, pourquoi pas pour le continent africain.
Donc vous pensez que le Sahel, c'est une cause qui a été trop délaissée ces dernières années?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est une cause qui a été très délaissée pendant presque des décennies et des décennies. Je pense que les gens ont pu voir venir certaines choses et ils sont restés les bras croisés. Et de fil en aiguille, d'autres causes sont venues s'y ajouter. Je parlais tantôt de l'impact du coronavirus et je parle aussi de l'impact des changements climatiques. Et je pense que sur les tables dans lesquelles les gens discutent la destinée de cette planète et des populations de cette planète, les gens doivent tenir compte du continent africain et surtout de cette bande du Sahel, donc qui est une bande de terre qui a été propice à beaucoup d'échanges, à beaucoup de brassages, à beaucoup d'innovations, à beaucoup de découvertes. Et cela, c'est pour le bonheur du monde. Et donc, je pense qu'on a tous un devoir envers le Sahel. Je fais appel à mes parents qui habitent cette bande du Sahel aussi à avoir un esprit de dépassement, un esprit de solidarité les uns entre les autres. Et je pense qu'on peut tous faire quelque chose si on veut. Et c'est un appel tout solennellement de dire que la culture a été là pendant des siècles et des millénaires pour nous réunir davantage. Cette culture doit servir pour nous rassembler davantage, surtout par les temps qui courent. D'autant plus qu'il s'agit de nous, de fils du Sahel et enfants du Sahel.
Justement, à cause de cette crise, est-ce que vous avez peur que la culture sahélienne disparaisse?
Mais bien sûr, quand il y a toujours crise, il y a la fuite, par exemple, des gens qui sont intéressés à développer la culture. Il y a aussi l'éloignement les uns entre les autres qui fait que tout cet échange qui a existé dans le Sahel, qui a donné naissance à toute cette beauté sur le plan culturel que les gens magnifiquent un peu partout dans le monde, n'aura plus de place. Parce que quand il y a un proverbe populaire qui dit « quand on a comme priorité la survie, on néglige aussi la créativité, on néglige aussi d'autres priorités. » Donc, et je pense que la culture doit quand même rejaillir pour ramener les enfants du Sahel de toutes les couches confondues, de toutes les ethnies confondues à dire que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous devons tous bâtir cet avenir ensemble et éviter que, par exemple, que d'autres esprits viennent nous diviser. Et je pense que c'est une force ultime là que nous réclamons envers, par exemple, tous les dissidents qui sont là sur le continent et dans la bande du Sahel aussi. Une place où il y a eu vraiment tous les grands empires qui ont eu comme sous-bassement la culture africaine, tous les grands royaumes, l'empire du Mali et plein d'autres empires qui ont fait la beauté de ce continent. Donc, je pense qu'il faut quand même vraiment redéfinir notre avenir ensemble.
C'était le mot de la fin. C'est la fin de ce 6e épisode d'Écho du Sahel. Bamal, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Khalid.
À très vite. Écho du Sahel.